Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être aussi nombreux un dimanche matin pour venir avec nous partager un voyage. On va vous proposer l'espace de 45 minutes, un aller-retour outre-Atlantique et un aller-retour avec trois guides privilégiés pour aller partir à la découverte de ce pays, pour aller discuter de comment va l'Amérique, particulièrement en ce moment, et comment les écrivains peuvent arriver à nous en donner une connaissance et une proximité. Bonjour François Bunel, Monsieur le Président.
Bonjour Julien, bonjour à tous et merci d'être là ce matin.
Vous avez choisi pour nous accompagner dans votre série de rencontres présidentielles, dans cette rencontre américaine, deux des écrivains américains les plus lus, les plus aimés, les plus familiers des lecteurs français. Bonjour Jim Fergus.
Bonjour.
Jim Fergus, l'auteur évidemment de 1000 femmes blanches et de toute la série de livres qui composent ce cycle, La vengeance des mères, Les Amazones, bientôt May et Chance, qui continue encore ce grand voyage dans cette terre d'Amérique et dans ce contexte historique des guerres indiennes. On va en parler là, pendant cette rencontre. À vos côtés, Douglas Kennedy. Bonjour Douglas.
Bonjour, ça va ?
Très plaisir de vous revoir. Douglas Kennedy, évidemment, que les lecteurs français adorent depuis longtemps, auteur de L'homme qui voulait vivre sa vie, la poursuite du bonheur, La femme du cinquième, Les charmes discrets de la vie conjugale, et puis votre nouveau livre, Les hommes ont peur de la lumière, qui évoque notamment un thème qu'on pourra évoquer pendant cette rencontre, qui est la lutte contre l'avortement aux États-Unis. Un thème qui, hélas, est tristement actuel dans le pays.
Oui, dans notre pays si stable maintenant. Si stable et progressiste, oui.
Alors, avant de parler avec vous, Douglas et Jim, je voudrais me tourner vers toi, François. On sait à quel point tu aimes l'Amérique, d'une part, et les écrivains américains, de l'autre. En quoi est-ce que la littérature américaine nous permet d'être peut-être le meilleur porte d'entrée sur ce pays aussi vaste, aussi complexe, aussi varié?
À 11h du matin, ça commence très fort.
Sans café.
Sans café, ouais. je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. Je pensais que tu allais me demander. On se tutoie parce que Julien Bisson, qui anime la rencontre, connaît parfaitement et peut-être même encore mieux que moi les États-Unis, parce qu'il y a passé, il ne le dit pas, mais il a vécu pendant très longtemps, enfin quelques années à San Francisco. Et je suis content que ce soit Julien qui soit là parce que je peux raconter l'anecdote. À une époque très lointaine, quand des patrons de journaux avaient fait l'erreur de me confier la direction d'un magazine qui s'appelait Lire, j'ai tout cassé et j'ai recruté des jeunes. Et je me souviens encore de Julien qui est arrivé au magazine Lire avec un bras dans le plâtre. Et on s'est dit, tiens, on va prendre le bras cassé. Il était stagiaire. Je crois que c'était en 2005-2006. Et puis après, il était très bon, donc on l'a titularisé. Et après, j'en ai fait mon rédacteur en chef adjoint. Et puis ensuite, mon rédacteur en chef. Et puis ensuite, quand j'ai quitté le journal, je lui ai dit, voilà, tiens, tu prends les clés. Et c'est toi qui diriges le journal. Et puis ensuite, quand on a créé America, j'avais dit à Eric Fotorino, si on crée America, il faut deux choses, des écrivains américains et un très bon rédacteur en chef. Et Julien est revenu. Donc ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, qui me supporte et qui connaît très bien l'Amérique. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Mais je croyais que tu allais me demander pourquoi j'ai choisi Douglas
ce et sera
Jim.
Ce sera ma deuxième question.
Et la réponse est simple, c'est parce que je suis schizophrène. Je suis totalement schizophrène, mais c'est à cause d'eux. Car Douglas, pour moi, c'est le grand écrivain des métropoles, des grandes villes. Et j'adore les grandes villes. Enfin, New York. Car je supporte pas Los Angeles. Non, j'y arrive pas. J'essaye, j'y arrive pas. Je deviens fou dans cette ville. Oui. Et Jim, c'est là la schizophrénie qui commence. C'est le grand écrivain des grands espaces. Et je ne suis bien que dans les grands espaces. C'est-à-dire Montana, Arizona. Jim habite
Colorado
aussi. Jim habite, comme vous le savez, si vous avez regardé les carnets de route où seule la terre est éternelle, en réalité, la vraie maison de Jim, c'est une caravane Airstream sublime qui l'emmène partout. Et j'ai toujours...
Sauf à New York. Alors,
sauf à New York, c'est ça. Je rêverais de te voir garer la Airstream sur la 5e avenue.
Et, voilà.
Et en fait, c'est ça qui est bien. D'abord, je les adore, je les aime profondément, comme écrivain et comme homme, parce que ce sont des gens géniaux. Voilà, ce sont des grands amis qui savent ce qu'est l'amitié. C'est pas forcément des choses, l'amitié n'est pas forcément une chose qui se dit ou qui s'exprime tout le temps. On se voit pas tout le temps, mais souvent en France, parfois là-bas, chez eux. Mais voilà, ils sont d'une fidélité incroyable et ils représentent pour moi ce qu'est l'Amérique. À la fois la démesure des grands espaces. Douglas a écrit dessus, souvenez-vous, l'homme qui voulait vivre sa vie, ça commence à New York, ça se termine dans le Montana. Et la démesure des grandes métropoles, la folie des grands espaces et la folie des grandes métropoles et l'homme au milieu de tout ça. Et ils arrivent parfaitement tous les deux à capturer et à saisir ce que c'est que nous, vous, quand on a envie d'aller se perdre dans le wilderness ou quand on a envie d'aller se perdre dans la foule. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de les laisser discuter entre eux, précisément pour répondre à ta question, c'est-à-dire comment la fiction, comment le roman peut nous faire comprendre mieux que n'importe quel reportage ou éditorial la manière dont l'Amérique évolue, bouge, vit ses paradoxes et ses contradictions. Voilà. Ça te va comme réponse ?
Ça me va
pas
très
mal,
bien.
Pas mal.
Il n'y a que des bonnes réponses. Il n'y a pas vraiment des mauvaises questions, mais il n'y a que des bonnes réponses. Est-ce que, pour reprendre ce que disait François, Jim, Douglas, qu'est-ce qui fait qu'on est américain ? Quand on a des expériences de vie aussi différentes que de vivre dans le Colorado ou dans l'Arizona près de la frontière mexicaine, ou alors dans le Maine à des milliers de kilomètres les uns des autres, dans des aires culturelles qui sont a priori si différentes, des climats si différents, des aires politiques si différentes également, on va y venir. Mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que ça signifie être américain dans un pays aussi vaste ?
Vas-y.
Ok, voilà. La vérité, je suis New-Yorkais, en fait, 100%. Troisième génération, en fait. Mon père a grandi dans un quartier populaire irlandais catho. Ma mère, en fait, un quartier petit-bourgeois juif. Donc, les juifs, les cathos, en fait, la culpabilité, c'est partout dans mon œuvre.
En stéréo.
Oui. Mais aussi, en même temps, en fait, j'ai grandi à Manhattan dans un appart de 65 mètres carrés quand il y avait une classe moyenne à Manhattan. Maintenant, ça, c'est un oxymore. C'est impossible. En fait, comme toutes les grandes villes, je vis 22 ans à Paris, une moitié de l'année, c'est absolument impossible de vivre comme ça, comme dans le passé. Et ça a diminué beaucoup de choses à New York, surtout depuis le confinement. Mais le fait que, franchement, en fait, c'est impossible d'être un jeune artiste dans une grande ville, maintenant, sans la subvention familiale, des choses comme ça. Le truc, je suis New-Yorkais, mais en fait, j'ai voyagé dans 47 États, en fait, pas encore l'Alaska, ou Nebraska, ou Iowa. Mais le reste, oui. J'adore mon pays, j'ai peur de mon pays en même temps. Et maintenant, on est dans un moment bizarre. C'est bizarre parce que, franchement, de temps en temps, je pense que Trump, c'est notre Mussolini. Ah oui, una duce, una voce. Et una duce, una voce. Mais aussi le fait, le mec est comme Rasputin. En fait, il continue, même s'il y a des scandales qui va enfin, détruire les carrières des autres. Et aussi, de plus en plus, je trouve aux États-Unis, la gouffre, c'est un gouffre éducatif. Il y a 20% de la population qui lit. Mais aussi, par exemple, je vis une moitié de l'année dans le Maine. J'adore le Maine. C'est en fait, franchement, en fait, ni noir, ni bleu, ni en fait rouge. C'est entre les deux. Le New Hampshire aussi. Il y a un candidat maintenant pour le Sénat dans le New Hampshire. Et peut-être il va gagner, un républicain, typiquement. Et il a dit récemment, le problème avec cet État, c'est des progressistes. Et il a cité un accord, c'était franchement, en fait, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, même si j'ai un sens de l'humeur très noir. Il a dit, il y a un accord ici, dans cet état si progressiste, les enfants peuvent identifier comme chats. Et ils ont remplacé des toilettes avec la literie. C'est impossible d'imaginer. Et peut-être ce mec sera un sénateur aux États-Unis en fait la semaine prochaine. Ça, c'est le pays maintenant. C'est un pays brillant et aussi absolument ignorant en même temps. Et de plus en plus, et c'est le sujet de mon prochain roman que j'ai juste livré, je pense que le pays va diviser en deux. Une guerre de la sécession, je pense que c'est très possible. Monsieur?
Oui, tu as tout à fait raison. Moi, je trouve les États-Unis vraiment effrayants maintenant, ce qui se passe politiquement. Et comme Douglas a dit, Trump, il se rappelle de Hitler, de Mussolini, de Franco. Et si tu vois comme... on les voit maintenant sur la télé, dans anciennes émissions, on voit ces mecs, on voit qu'ils sont fous, hein? Ils sont fous, Hitler et Mussolini. Et maintenant, on a Trump, on voit Trump sur la télé, et lui aussi, il est fou. C'est lui exprès qui a, à mon avis, a commencé de... On avait des problèmes, bien sûr, avant lui, mais c'est lui qui a vraiment... Il est en train de détruire les États-Unis, de faire les États-Unis plus en démocratie. Et c'est ça que je crois va arriver. Moi, j'ai essayé de... François indiquait... Je suis pas un homme des villes. J'ai horreur de New York, de Los Angeles, et j'ai découvert ici en France les grands espaces d'Aveyron, c'est ça que j'adore. Même de venir à Paris, c'est de plus en plus difficile pour moi. J'adore Paris.
À Paris, tu peux tenir quoi ? Deux jours ?
Quoi ?
Tu peux tenir deux jours ? Trois jours ?
Non, mais deux fois, je reste une semaine ou deux semaines. Si j'ai des responsabilités professionnelles, mais de moins en moins, en fait. Mais bon, moi, j'ai essayé de... Parce que je suis moitié français, j'ai très fier de ça, ma mère était française. Et moi, j'ai essayé d'avoir la nationalité française. J'ai passé 2 ans, plus que 2 ans, pour ramasser tous les documents nécessaires pour satisfaire le tribunal. Enfin, j'avais tout... Et chaque fois que j'ai envoyé... j'ai pris un avocat aussi, il y a un an et demi, quasiment 2 ans, pour m'aider. Chaque fois, on a soumis mon dossier. Après un mois, 2 mois, il est revenu vers nous, le tribunal, et dit « Ah non, mais on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça.
Bon, » Ça vous rappelle quelque chose, hein?
Enfin, je pensais que j'avais tout en place. Et j'étais vraiment fier parce que c'était pas... J'aurais été capable d'écrire encore un roman, peut-être 2, dans le temps que j'ai consacré à cette demande. Après 2 mois, on a eu une réponse du tribunal, du juge. J'ai reçu une lettre de lui, une seule page, qui me dit qu'il a refusé ma nationalité française.
Il était à côté de Trump ou quelque chose comme
ça ? Je sais, je me demande.
Mais cela dit, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce qui se passe. Parce que là, Jim le prend avec beaucoup d'humour. Mais on dit que l'Amérique va mal. Mais pardonnez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un du ministère de la Culture dans la salle ? On est dans le plus grand salon littéraire de France. Vous avez 2 écrivains qui viennent du fin fond des États-Unis, qui parlent français. Qui fait ça ailleurs ? Qui sont venus ici ? Et on refuse à un écrivain d'origine française la nationalité française alors qu'on la donne à des rappeurs, des instagrammeuses, etc. Il y a peut-être un problème quand même, non? Alors je ne sais pas si il faut faire une pétition. Peut-être il faudra ça, il faudra que ce soit une pétition de lecteurs qui disent « Mais pourquoi est-ce qu'on n'offre pas à des écrivains qui sont célébrés en France la nationalité française ?» Peut-être que nos ministres pourraient s'enorgueillir de faire ça, non? Allez, on lance une pétition. Sérieux? Non mais on le fait, hein.
Mais, oui, c'est, merci François.
Non mais sérieux, il faut le faire. Regardez le débat qu'il y a en France, comme vous savez, Douglas, Jim, en France, le débat, depuis 10 ans, c'est l'identité française. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'identité française? On a eu des présidents de droite, des présidents de gauche, sur cette question de l'identité française. Là, tous les deux, vous racontez aussi ce que c'est que l'identité française. C'est aimer la France, être américain, parler français, avoir fait l'effort d'apprendre le français et avoir du succès en France. Être lu, avoir des lecteurs, c'est énorme.
Oui, franchement, un système de salon de livres, un foire de livres comme Brive, en fait, ça n'existe pas aux États-Unis, pas du tout. Et comme j'ai dit, j'imagine 20% de la population achète des livres maintenant. Ça, c'est un grand problème. Ça, c'est mon obsession, l'éducation. Mais une autre chose, au sujet de Trump, en fait, dans mes études historiques quand j'étais à l'université, et après, en fait, c'était prévenu par Sinclair Lewis, grand écrivain américain, qui a gagné le prix Nobel, dans un roman des années 30 qui s'appelle, en anglais, It Can't Happen Here, ce ne peut pas arriver ici. Et c'est un homme d'affaires, de pouvoir, qui est devenu président, et un homme complètement totalitaire. C'était toujours là-bas. Et le truc maintenant aux États-Unis, et c'est le grand débat philosophique depuis les années de Reagan et avant, c'est qu'est-ce que c'est l'État? Qu'est-ce que c'est la fonction de l'État? Et la vérité aussi, on vit maintenant en pleine guerre culturelle qui a été créée par Nixon en 68. Nixon a gagné la Maison-Blanche avec une stratégie. La vérité, maintenant, le Sud, en fait, le milieu du pays, c'est complètement républicain. Dans le passé, en fait, le Sud était 100% démocrate. Pourquoi? Le parti républicain, c'était le parti d'Abraham Lincoln. Et donc, en fait, le Sud était complètement démocrate. Nixon a créé une stratégie, en fait, franchement, du Sud et chrétienne aussi. Il a dit tout le temps, en fait, on est des vrais Américains, en fait. De l'Amérique profonde, les deux côtes, en fait, c'est des élites, c'est des progressistes, des gens, en fait, qui, en fait, voient des cappuccinos et des chardonnays, qui ont des copains et copines homosexuels, mon Dieu, qui aiment des Africains-Américains, ça, c'était sous le vernis. Mais, franchement, et là, en fait, le péché mortel qui parle français, mais la vérité est, depuis 68, ça a été la stratégie du Parti républicain. Et Trump a maîtrisé ça d'une manière extraordinaire, extraordinaire. Et on vit avec ça, et aussi depuis Reagan. Et malheureusement, pour moi, Reagan est devenu, en fait, le président le plus influentiel depuis Roosevelt. Parce qu'il a changé complètement le trajet du pays. Mais on vit dans un monde hyper-capitaliste où la mondialisation est extraordinaire. Et franchement, maintenant, c'est une économie du 19e siècle aux États-Unis. Et c'est tragique.
Là-dessus, sur vous parlez de la guerre de sécession tout à l'heure. Je me souviens d'un livre de Russell Banks. On lui demande de parler de l'Amérique. Et Russell Banks dit, jusqu'à la guerre de sécession, donc on est en 1860-1865 à peu près, on parlait seulement des États-Unis. Après la guerre de sécession, on impose l'idée de... C'est pas simplement les États-Unis, c'est l'Amérique. L'Amérique, dans un sens, on unifie le pays derrière une idée commune qui réunit tous les États. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une telle fracture dans le pays, c'est aussi un affaiblissement de l'idée de l'Amérique ?
Je pense
quelque chose
d'intéressant. Je vois le pouvoir des sénateurs comme Mitch McConnell, qui est un connard total. En fait,
le leader des républicains.
Mais je n'ai pas un point de vue à ce sujet. Mais en fait, des gens comme ça, dans des petits États qui ont un pouvoir immense, je pense de temps en temps, c'est la revanche de Sud pour la guerre de la sécession. En fait. Ils ont fait une victoire immense maintenant. Et de plus en plus, en fait, le pays a des lois très chrétiennes, en fait, contre l'avortement, en fait, la contraception. C'est la prochaine, en fait, étape, en fait. Et j'en suis sûr, le mariage homosexuel sera terminé dans 10 ans, en fait. De plus en plus, j'en suis sûr qu'il y a un moment quand les deux côtes vont dire « c'est fini ». Et pourquoi? Parce qu'on a le pouvoir économique. La Californie a l'économie, en fait, la quatrième économie la plus grande du monde. New York, c'est pas mal économiquement aussi. Boston, en fait, un centre du tech, un centre, biotechnologie, des choses comme ça, en fait. Et aussi une densité, en fait, des universités extraordinaires. On a le pouvoir économique dans les deux côtes. Et de plus en plus, je pense que peut-être ce n'est pas une mauvaise idée de dire adios, amigos.
La science-fiction va devenir réalité.
Oui.
Comment tu... Attends, moi, il y a une question que je voudrais poser à Douglas, peut-être aussi à Jim, parce que tu as très bien montré comment et pourquoi il y a une histoire qui fait que le Sud est républicain. Mais une chose me frappe... pour y avoir été il n'y a pas très longtemps encore, dans le Sud, notamment Louisiane, donc Louisiane, Alabama, Tennessee, ok, tout ça républicain. Et il y a une ville, la Nouvelle-Orléans, New Orleans, qui est démocrate, avec Madame le maire, qui est noire, jeune, femme. Comment tu expliques ça? C'est-à-dire que tout l'État de Louisiane, tous les États qui bordent la Louisiane, effectivement, sont républicains. Et puis, il y a cet îlot, New Orleans, qui est démocrate. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un espoir ou pas?
Moi, je dirais simplement que dans certaines villes, il y a il y a assez de démocrates qu'est-ce que tu as
à dire?
Mais en fait, les républicains sont le parti c'est la minorité aux États-Unis. C'est beaucoup moins de républicains que démocrates. Mais et donc on a les petites. C'est pareil à certains États comme Wisconsin ou Michigan où on a les enclaves des démocrates qui ont un peu de pouvoir. C'est les républicains qui et franchement, s'ils gagnent le House et le Sénat, on est vraiment fucked. Sorry.
Foutu en français.
Pardon, excusez-moi. Mais moi, je vois que. Et je voulais dire aussi, on a détesté Nixon à l'époque. Maintenant, en comparaison de Trump, Nixon, il me semble comme Gandhi, franchement.
Franchement, j'ai dit ça dans plusieurs interviews. En fait, comparé à Trump, en fait, George W. c'est Montesquieu, Chateaubriand, quelqu'un comme ça.
Mais comment est-ce que c'est possible, justement, ce pays qui est capable d'élire quelqu'un comme Barack Obama? 5 ans avant l'élection de Barack Obama, personne n'aurait pu dire une personnalité comme Barack Obama peut accéder à la Maison Blanche. Quelqu'un qui est un pays qui est aussi capable de battre Trump dans les urnes.
Oui,
comment ça se fait que ce pays soit en train de balancer entre ces deux extrêmes constamment?
Regarde ce qui se passe ici. Hein.
Oui. Ça, c'est le dilemme pour tous les Américains, surtout des Américains éduqués. Et le fait que, franchement, en fait, il y a des choses extraordinaires chez nous.
Le rock and roll.
Oui, le rock and roll, le jazz, en fait. Franchement, le cinéma américain, en fait, la télé américaine est très intéressante. La littérature américaine est très forte.
Le cinéma.
Et aussi, en fait, la sens de l'espace. De plus en plus, j'ai fait une grande, en fait, série d'un récit de voyage pour le journal Dimanche, en fait, l'année dernière, en pleine Covid. Et pour moi, c'était passionnant parce que, OK, on était dans le Kansas. Et le Kansas, c'est en fait un des États les plus rouges conservateurs. J'ai trouvé franchement un petit en fait village avec une librairie indépendante, une brasserie en fait artisanale, des gens franchement avec des idées très progressistes. On trouve ça partout. Ce n'est pas comme c'est simplement 100% voyou. Ou comment on dit aux États-Unis, rednecks, dans des endroits comme ça. Austin, c'est une des villes les plus intéressantes aux États-Unis, dans le Texas. J'ai un grand copain du Texas ici aujourd'hui qui parle très bien français aussi, David, qui vit dans le Nord. Mais il est du Texas et un homme en fait hyper éduqué. En fait, franchement, ça c'est un cliché de penser. C'est toujours du Moyen-Âge, du Sud. Il y a des aspects de ça, ça c'est sûr. Il y a des aspects de ça. Mais la vérité, en fait, c'est difficile à dire comment on est si schizophrène, Obama et puis Trump, et puis Biden, et puis, je ne sais pas, après, en fait. Mais ce sera quelqu'un, en fait, extrême droit. Le gouverneur de la Floride.
Ron DeSantis.
Oui, DeSantis. Mais une autre chose avec ce mec qui est extrême droit, comme Ted Cruz et comme Josh Hawley de Missouri, hyper, hyper éduqué aussi. En fait, DeSantis, il est un fasciste. Il est un fasciste. Il est éduqué à Yale et Harvard. Cruz aussi, Princeton.
Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est qu'en fait, on voit une classe politique extrême aux États-Unis qui n'est pas, comme ça peut être le cas en France, une classe politique qui fonctionne sur uniquement le ressentiment, la colère, la haine, etc. Non, ce sont des lecteurs, ils lisent énormément, ils connaissent la poésie. Donc c'est assez flippant, c'est scary. On se dit, mais OK, donc en fait, même la culture ne pourra pas lutter contre ça, puisque la culture est récupérée par eux. Ça, c'est vraiment un trait américain, je crois. Et quelques écrivains aussi se sont mis là. Il y a un très bon écrivain de polar que je ne citerai pas, qui, après une agression personnelle sur sa femme, est venu du camp démocrate au camp républicain et qui continue de publier des très bons polars par ailleurs, mais qui est maintenant totalement, totalement rouge. Qui vit dans le Montana, à côté de Missoula.
Je le disais, Douglas, tout à l'heure, votre roman évoque notamment la question de l'avortement. La question de l'avortement, ça pose justement cette question. J'imagine que vous avez écrit ce roman avant la décision de la Cour suprême revenir sur l'arrêt Roe versus Wade. Vous savez, l'arrêt Roe versus Wade, c'est celui qui interdisait l'opposition à l'avortement et qui, d'un seul coup, rend la possibilité à chaque État d'interdire l'avortement.
Et ça, c'est dans 73, Julien.
Ouais. C'était il y a
50
ans.
Quand il y avait un corps suprême républicain aussi. Mais le parti républicain des années 70, c'est un peu différent que, en fait...
C'était Nixon.
Et l'idée, toujours, on est en fait libertarienne et en dehors, en fait, des vies intimes et privées, en fait, des citoyennes. Et c'était juste et correct, enfin. Et honnêtement, pendant les années 80, surtout avec Bush premier, il commence de cibler, en fait, des chrétiennes. En fait, le pouvoir des chrétiennes commence d'augmenter. Pourquoi la Constitution américaine consacrait l'idée de la séparation entre l'Église et l'État? Pourquoi? Notre héritage est un héritage puritain. En fait, franchement, j'ai dit ça une fois à la radio publique aux États-Unis. Les puritains qui sont arrivés dans le Massachusetts au début du XVIIe siècle, c'était le Taliban. De l'époque.
Mayflower en 1620.
Oui, hyper, hyper féroce. Et franchement, en fait, les hommes de la lumière, Jefferson, Madison, Adams, Franklin, qui ont écrit la Constitution, ils ont compris que, en fait, dans l'âme américaine, il y a un aspect fondamentaliste et aussi théocrate. Donc, on va arrêter ça. Et le but de ça, en fait, c'était de plus en plus créer un État chrétien. Tu es d'accord?
Oui. Ah non, mais c'est sans doute, sans doute. C'est moi, par contre, j'ai honte de mon pays maintenant. Et j'ai peur pour ce qui arrivait et va arriver. Et c'est pour ça que je voulais avoir la possibilité d'échapper en France avec mon passeport français. Mais ça ne va pas aller maintenant. Mais bon.
Il y a quelque chose qui est frappant, Jim, c'est pour tous ceux qui connaissent un peu les États-Unis, c'est le degré de violence de la société américaine, l'acceptation de la violence.
Oui, c'est terrifiant ça. Et ces attaques sur les écoles et les enfants qui sont tués, c'est n'importe quoi. Et je dois dire que. Il y a une rage aux États-Unis.
La colère est partout.
Oui, la colère, oui.
Pour moi, quand j'ai écrit en fait Les Hommes au Père de la Lumière, ça a commencé avec une conversation à Los Angeles, votre ville préférée. ma fille a gagné une place dans les grands conservatoires de drame aux États-Unis, Calart. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à Los Angeles, une ville que j'aime d'une certaine manière, même si c'est complètement bizarre en même temps, parce que le succès est toujours là-bas, mais la vérité, c'est l'enfer. Et c'est un enfer américain avec le soleil, en fait, avec des ciels de bleu de Yves Klein et en fait des plages.
Avec les incendies maintenant aussi.
Oui, toujours. Toujours. Mais j'ai parlé une fois avec un chauffeur d'Uber parce que franchement, c'est plus acceptable d'utiliser des Uber, on peut boire. Et en fait, l'herbe est légale maintenant, donc on peut faire beaucoup de choses avec un Uber. Je lui ai demandé, en fait, le mec a un tatouage de Marine Corps. J'ai dit, mon père était un Marine. Oh oui. Quand, Deuxième Guerre mondiale, mon père a survécu Okinawa, qui était la bataille la plus forte. OK, immédiatement, il y avait un point de contact. Et je lui ai dit, en fait, pourquoi vous faites ça? Et il m'a dit, j'étais vendeur. J'ai perdu ma poste, en fait. Notre entreprise était achetée par une plus grande entreprise multinationale. J'ai perdu ma poste. En fait, je suis homosexuel. Je vis dans une caravane avec mon mari et je bosse 80 heures par semaine pour peut-être 1 000 $. Et je lui ai dit, immédiatement, j'ai une idée. En fait, donnez-moi votre 06. Je vais acheter 2 heures de votre temps demain au téléphone. Et je l'ai interviewé. Et pour moi, j'ai pensé immédiatement, mon Dieu, c'est l'économie du 19e siècle. Et puis, en même temps, en fait, je suis devenu obsédé par des gens qui étaient obsédés contre l'avortement. Pourquoi? J'ai une fille qui a 26 ans, en fait. Son corps est son affaire. Voilà. Et aussi, c'est misogyne. C'est en fait une nécessité de contrôler des autres. Et c'est franchement de plus en plus du Moyen Âge. Et pourquoi ça est devenu en fait un événement qui a changé franchement en fait le décor américain. Et donc ça c'était le début du roman pour moi.
Jim, Douglas parlait beaucoup de le fait d'un retour au 19e siècle aux États-Unis. Or le 19e siècle c'est justement le siècle où se passe la plupart de vos romans autour des guerres indiennes. Si on suit le livre roman, c'est aussi une contre-histoire de l'Amérique à travers ces pages secrètes des guerres indiennes que le pays ne veut pas toujours voir. Est-ce que le pays reste aussi hanté, d'une certaine façon, par la violence qui a été celle du génocide des Amérindiens, qui a été évidemment c'était celle de la colonisation? Est-ce qu'il y a encore, dans ce qui se passe aujourd'hui dans l'Amérique, une trace de cette histoire qu'il ne veut toujours pas regarder en face?
Ah oui, je crois. Oui, c'est sûr. En fait, moi, j'écris. J'écris pas sur la vie, le monde contemporain. Quasiment tous mes bouquins sont basés sur le passé. Et parce que je ne comprends pas, comme Douglas, il est tellement bien éduqué sur l'histoire et les politiques. Et moi j'essaie de l'éviter un peu, de les échapper un peu, parce que je le trouve tellement déprimant. Ce qui se passe, c'était déprimant. Il y a beaucoup de choses dans mes bouquins qui ne sont pas très gays, c'est pas très positif, mais ça aussi, je trouve que on voit, oui, c'est vrai, on voit la violence on voit la violence des États-Unis dans cette époque aussi. Mais quand même, on regarde quasiment n'importe quelle culture, n'importe quel pays, ça existe. Et pendant des mille années, que les gens qui ont colère et qui fait ces attaques et on détruit les Indiens, on détruit la culture, toute une culture. Mais ça, c'est arrivé en France aussi, tous les natifs, les populations natives, quasiment partout dans le monde, ils sont exploités, ils sont détruits comme ça. Et puis le blanc, il reste toujours, ils gagnent, ils ont des armes, meilleures armes, ils ont plus d'argent, ils ont le plus d'influence. Je ne sais pas comment on peut lutter contre ça. C'est ça qui me fait peur. Et comment on lutte contre ce qui se passe aux États-Unis maintenant? Oui, on a les politiques, mais ça diminue maintenant. La possibilité de... Surtout si, comme j'ai dit, s'ils ont gagné le House et le Sénat et le président, si c'est Trump encore, on est terminé.
Ah oui. Mais historiquement, en fait, quand j'étais à l'université, en fait, mon but, pas d'écrire des romans, c'était de devenir historienne universitaire. Et puis mon tuteur m'a dit... vous êtes un homme qui veut être au milieu du monde, en fait. Vous aimez l'écriture, en fait. C'est pour vous, pas une bibliothèque. Et aussi, en fait, une vie comme universitaire, c'est odieux. Mais Mais historiquement, si on regarde la fresque historique, j'imagine, en fait, si on a lu, par exemple, Joseph Roth, à la fin des années 30, ou même si, en fait, au début des années 30, à la fin de la République Weimar, à Berlin, en fait, un grand Berlinois. Et je vis, en fait, 3 mois par an à Berlin, Deutsch ist mein deutscher Sprache, mais pas aujourd'hui. Le truc, en fait, Roth a pensé, il s'est suicidé, oui, à la rue de Seine, à Paris, à cause d'alcool. Il a pensé que c'est impossible, il n'a pas un avenir ici en Europe, parce que le Reich de 1000 ans, que Hitler a dit, va continuer. Il y a toujours un changement. Il y a toujours un changement, même surtout quand des choses extrêmes arrivent. Qui va changer celui-ci, je ne sais pas. Mais historiquement, ça, c'est comme en fait, on était... À Rome pendant l'époque de Monsieur Nero, on va penser, en fait, ce sera impossible d'avoir, en fait, une république grecque ici. Mais ça va changer, Jim. En fait, peut-être pas quand on vit, mais ça va changer.
Ça change, mais qu'est-ce qu'on fait avec toute cette violence et comment on change ça? Comment on change les tous ces gens qui on voit maintenant, qui les militaires qui ils s'habillent comme les militaires, ils sont pas vraiment les militaires, ils sont les comment dit-on, c'est quoi le mot,
une crise va changer les choses, une grande crise peut-être.
Oui,
une grande crise va changer les choses.
Oui, quoi, troisième guerre mondiale,
ou non, peut-être, ou vraiment, ou peut-être
optimiste, les Américains, c'est bien.
Ou peut-être une guerre de la sécession aussi. Ça, c'est une crise qui va
prendre... Ça, tout est fait possible. Je oui, suis d'accord. Oui, ouais.
Ça, c'est possible. Qu'est-ce que tu penses, François?
Mais je rebondis. La réponse... Enfin, je n'ai pas les réponses. J'ai beaucoup de questions. Mais Jim et toi, vous posez la bonne question. Comment lutter? Mais la réponse, il me semble que vous l'avez et vous la connaissez. Il y a deux façons de lutter. La première, c'est vous deux, au boulot. Au boulot, les mecs. Écrivez. Et l'autre, c'est vous, au boulot. Lisez ce qu'ils vont écrire. Explication. Je crois vraiment que c'est précisément dans les périodes de crise que les écrivains, quand ils sont dans l'état dans lequel vous les voyez là, c'est-à-dire quand même un tout petit peu fébrile, sont les meilleurs. Si vous reprenez les grands écrivains, c'est dans les périodes de crise qu'ils écrivent leurs grands livres. Crise personnelle, mais aussi crise contextuelle, politique et sociale. Et je reviens à Jim Harrison. Jim disait, il était obsédé par le passé aussi, pour parler d'aujourd'hui, totalement obsédé. Il disait, mais l'Amérique, c'est quand même un petit problème. C'est un pays qui est composé de gens dont les arrière-grands-parents ont tous été, viennent tous d'Europe, les Irlandais, les Italiens, les Polonais, les Galiciens, les Espagnols, les Français, ce sont tous des repris de justice, des taulards, des prostituées, des fous pris dans les asiles, des gens dont on ne voulait plus en Europe et qu'on a envoyés là-bas. Et ça crée un nouveau monde qui a voulu oublier, et on vit sur l'oubli. Et Jim ajoutait, on oublie une chose, c'est qu'au XIXe siècle, dont parle beaucoup Jim Fergus, en fait, l'Amérique s'est construite avec dans les cales de ses navires 1 million d'esclaves et dans les grands espaces le génocide de plus d'1 million ou 2 millions ou 3 millions de natifs, d'indiens. On veut oublier ça. Et vous, vous avez la possibilité, et vous le faites, de raconter cette histoire. Alors comment lutter? Moi, je crois vraiment que la façon de lutter, c'est que vous, les écrivains, vous racontiez des histoires. Et que nous, les lecteurs, on s'en empare. Regarde ce qui s'est passé. Tu te parlais tout à l'heure de Joseph Roth en Allemagne. Okay. Parlons de Philip Roth aux États-Unis.
Tout à fait.
Si vous prenez la trilogie de Philip Roth, American Pastoral, la pastorale américaine, J'ai épousé un communiste et La tâche. Eh bien, rien qu'en lisant ces trois livres, je crois que vous avez une version de l'histoire américaine du macartisme jusqu'aux années Clinton qui vous permet de comprendre et, en comprenant, de mettre un tout petit peu vos certitudes de côté et de ne pas abonder dans le sens des extrêmes. Je suis persuadé que c'est parce que vous écrirez des livres et que moi j'attends de lire ton livre sur cette guerre de sécession, parce que c'est ça le rôle des écrivains, c'est de prévenir en imaginant. En imaginant le pire, le citoyen se dit « Ouais, ok, là je viens de comprendre une chose ». Pas parce qu'on m'a fait un éditorial ou qu'on m'a donné une leçon de morale, mais parce qu'il y a des personnages qui vivent ça. Et il ne faut pas que ça se passe. Et je crois beaucoup que quand même, aux États-Unis comme en France, il peut y avoir des lecteurs qui sont des lecteurs avant de devenir des électeurs. C'est-à-dire que quand on lit, on est quand même un peu moins mouton, non? On commence à se faire notre propre opinion. Mais on a besoin d'eux. Et donc, moi, je suis vraiment persuadé de ça. Quand je lis « 1000 femmes blanches », je comprends aussi ce qu'a été la politique d'expansion de Grant. Quand je lis D'Alva, quand je lis La poursuite du bonheur, qui pour moi est un des très grands livres de Douglas, je comprends ce qu'était le macartisme de l'intérieur, mais parce que les personnages le font comprendre. Et vous voyez, lutter, c'est aussi ça, c'est que vous faites le travail. Aujourd'hui, le meilleur moyen de comprendre ce qu'était l'Amérique de la dépression, c'est Les raisins de la colère, c'est Steinbeck. Vous avez un pouvoir qui n'a pas d'efficacité immédiate. Zéro, c'est vrai. Mais vous avez la possibilité, en écrivant, de faire bouger les consciences une par une. C'est long, c'est lent, c'est très lent, mais ça marche.
Sauf, il y a de moins en moins des lecteurs.
Il est toujours aussi optimiste, hein, c'est bien. Mais ça dépend
et qu'est-ce
où.
Qu'est-ce qu'on fait?
Ça dépend où.
Comment on va éduquer ces gens qui C'est ça le problème aux États-Unis, surtout
Jim,
l'éducation.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça dépend où. Tout à l'heure, regarde, tu le disais toi-même. Oui, bien sûr, il y a des États totalement rouges, républicains. Mais je pense qu'on a tous fait cette expérience. Aller aux États-Unis dans une toute petite ville, vous y trouvez une université, vous y trouvez des écrivains. Allez faire un tour, par exemple, à Missoula, dans le Montana. OK, très bien. Missoula, c'est démocrate et autour, tout est républicain. Mais il y a des jeunes qui viennent de tout le pays pour se former. Tu disais tout à l'heure, Boston, c'est la Mecque de la technologie. Même si on va dans des... L'autre jour, on était... Enfin, il y a l'autre jour, comme c'était la semaine dernière. Il y a deux ans, un an et demi, j'étais avec Richard Powers et David Joy en North Caroline du Nord et Tennessee. Non. Et en fait, dans toute petite ville du Caroline du Nord, qui s'appelle Sylvia, c'est minuscule. Il y a une université... au bar, les types, ils ont des barbes comme ça, on se dit ça doit être des fous furieux, ils ont des flingues, etc. Sauf qu'ils ont lu et ils vous parlent de Faulkner et quand vous discutez avec eux, ils vous disent en fait, j'étais républicain et en fait, là, j'ai voté démocrate. Donc je pense qu'en fait, oui, ces gens-là, ils ont lu, par exemple, j'avais été très surpris de voir qu'ils avaient lu un vétéran qui s'appelle Tim O'Brien, qui est un grand écrivain américain, ou Elliot Ackerman, qui est un vétéran, je crois, de l'Afghanistan, qui a été GI au début du XXIe siècle en Afghanistan, et qui est un jeune écrivain. Et en fait, ces types-là font bouger des lignes. Donc vous pouvez faire bouger des lignes, pas beaucoup, c'est petit, mais il y a encore des lecteurs. Je t'assure.
Oui.
Quelques-uns.
Je suis entre les deux points de vue, en fait.
Je ne suis pas convaincu. Oui, ouais.
On en trouvera à Tucson.
La vérité maintenant est le plus grand problème. Je vais vous montrer le plus grand problème pour la littérature moderne.
Ah oui, c'est sans doute.
Je vis en fait entre Paris, Berlin et aussi le Maine, mais il n'y a pas un métro dans le Maine. et franchement, quand je vois quelqu'un dans le métro avec un livre, pas de moi, mais un livre, en fait. Je vais aller, en fait, l'embrasser. Merci, en fait. Je pense que c'est, comme j'ai dit, en fait, créer une nouvelle génération d'électeurs et électrices est fondamental. La vérité, Jim a raison, en fait. Franchement, en fait, le défi aux États-Unis est immense, surtout avec les armes, surtout avec l'ignorance, surtout avec le fait qu'on n'investit pas dans l'infrastructure humaine. Et ça, c'est l'éducation, une vraie santé publique, en fait, un système des HLM, des choses comme ça. Et de plus en plus aussi, parce que je suis un étudiant d'histoire, je pense, honnêtement, on vit globalement maintenant dans une nouvelle version des années 30. On est à d'une certaine précipice et quelque chose va arriver. En fait, on regarde la situation en Ukraine avec ce monstre Poutine. Quelque chose va changer comme ça et on sera dans un vortex, j'en suis sûr. Et désolé d'être si optimiste. Mais...
Je vous avais proposé un voyage outre-Atlantique. Vous voyez, le voyage arrive au bord du précipice. Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment à Jim Fergus. Merci infiniment à Douglas Kennedy. Merci à François d'avoir pu rendre possible cette rencontre exceptionnelle. Vous pouvez les retrouver, évidemment, sur leur stand. Le stand de Belfond pour Douglas Kennedy. Le stand de Cherche Midi pour Jim Fergus. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée pour cette dernière journée de la Foire du Livre. Merci beaucoup.